généralement, c'est un rite de passage, parce qu'on paraît devant ses pères.
L'efficacité proprement magique du rituel, la leçon inaugurale.
Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle.
Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Bah, il était vert de peur.
Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous.
Vous voici conviés comme chaque jour de cet été au Collège de France avec France Culture pour une nouvelle leçon inaugurale. Cet état des lieux d'une recherche en cours est aussi le reflet des mutations de notre monde. Les nanotechnologies ont fait leur apparition et le monde de l'infiniment petit a révolutionné la manière d'administrer les médicaments. Le biopharmacien Patrick Couvreur, professeur de pharmacotechnie à l'Université Paris-Sud, présente les principales avancées réalisées pour la vectorisation de molécules biologiquement actives dans le cadre de la chaire annuelle d'innovation technologique Liliane Bettencourt. Grâce à cette révolution technologique, le missile magique, imaginé par le prix Nobel de médecine en 1908, Paul Ehrlich, est devenu réalité. S'enthousiasme Patrick Couvreur qui explique « Nous cherchons à accrocher des médicaments, notamment anticancéreux, à des nanoparticules qui les conduiront préférentiellement au sein des tumeurs. C'est comme mettre un message dans une bouteille à la mer, le message est protégé, sauf que la bouteille disparaît une fois son but atteint », déclare-t-il à l'AFP quand il reçoit après d'autres prestigieux prix, celui de l'inventeur européen en 2013. Fervent défenseur de la vulgarisation scientifique, il note « Le terme nano fait peur car il réfère à l'infiniment petit. Mais à bien y réfléchir, une nanoparticule est beaucoup plus grande qu'une molécule. Or, quand nous prenons un comprimé d'aspirine, nous absorbons des molécules. Il faut néanmoins rechercher de manière approfondie des toxicités qui pourraient être spécifiques de la forme nano. Évaluation de la fonction hépatique, puisque les nanoparticules ont tendance à s'y accumuler. Étude de la biodégradabilité des matériaux, lipides, polymères, utilisés pour la préparation des nanoparticules, car ils doivent pouvoir être éliminés. Recherche de réactions immunologiques pouvant déboucher vers certaines toxicités à l'injection. Ce chercheur d'origine belge qui a déposé plus de 50 brevets et qui a créé et dirigé entre 2000 et 2006 l'école doctorale Innovation thérapeutique et participé à des start-up explique le saut technologique et médical décisif accompli avec ses équipes grâce à la squalénisation. Ce procédé très performant qui augmente le taux d'encapsulation repose sur l'utilisation d'un biolipide naturel, le squalène, qui est un précurseur du cholestérol qui se trouve naturellement dans la peau. On en trouve également dans l'huile d'olive et les poissons gras. Ce composé n'est pas toxique. Cela posé, du laboratoire aux essais cliniques, le chemin est lent et rigoureux. Reste l'enthousiasme, qualité fondamentale pour ce chercheur. Et nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France pour la leçon inaugurale de Patrick Couvreur, les nanotechnologies peuvent-elles contribuer à traiter des maladies sévères le 21 janvier 2010 ?
L'ambition de cette leçon inaugurale va être de vous montrer en quoi les nanotechnologies, et en particulier les nanotechnologies intelligentes, peuvent contribuer en effet à traiter des maladies sévères. Alors, je vous disais que des nanovecteurs, des nanotechnologies pour le médicament peuvent être qualifiés d'intelligents. Eh bien, tout d'abord, pourquoi ? En raison de leur taille, parce que ce sont des objets qui sont petits. Si vous regardez l'échelle de taille de la nature en partant des atomes jusque, par exemple, au grain de pollen, eh bien, vous verrez que les vecteurs de médicaments, que ce soit des liposomes, que ce soit des nanoparticules, on reviendra sur toutes ces notions ultérieurement, eh bien, ont une taille qui est exactement intermédiaire entre la taille des virus et la taille des bactéries. Et de ce point de vue-là, du simple point de vue de leur taille, eh bien, vous avez compris que ces nano-objets, finalement, ressemblent aux particules naturelles et que de ce point de vue-là, elles vont être traitées, dans certains cas, par l'organisme comme étant des particules naturelles. En d'autres termes, elles vont être capables de tromper l'organisme, si je puis m'exprimer ainsi. Ces nanovecteurs, grâce à la chimie, on le verra, notamment, peuvent être intelligents parce que maintenant nous disposons tout d'abord d'énormément de matériaux et de biomatériaux. C'est vrai que la chimie des matériaux et des biomatériaux a fait des progrès considérables ces dernières années. Les galénistes ont également développé des procédés de préparation qui sont maintenant diverses et variées. Et tout cela permet maintenant de développer des nanovecteurs avec des architectures, comme vous le voyez ici, extrêmement variées, extrêmement diverses et adaptées à l'objectif thérapeutique que l'on envisage. Par exemple, comme vous le voyez ici, eh bien, voyez qu'on peut utiliser des lipides, et en particulier des phospholipides naturels, qui sont les constituants naturels de la membrane cellulaire, et on peut utiliser ces phospholipides pour former des vésicules phospholipidiques que l'on appelle des liposomes. Et suivant les procédés de préparation, eh bien, vous le voyez, on va pouvoir faire des liposomes qui vont être multilamellaires, c'est-à-dire avec plusieurs bicouches de phospholipides, ou au contraire, comme vous le voyez ici, unilamellaires. Il est possible aussi, vous le voyez à ce niveau-ci de la diapositive, d'utiliser des polymères, et en particulier des polymères biodégradables, et que l'on va mettre en œuvre suivant des procédés galéniques extrêmement variés. Par exemple, on va pouvoir former des nanoparticules qu'on va appeler plus spécifiquement des nanosphères, lorsque l'on va structurer ce polymère pour avoir, vous le voyez, une nanomatrice polymère dans laquelle le médicament va être dispersé à l'échelle moléculaire. En utilisant le même polymère biodégradable ou les mêmes polymères biodégradables et en faisant, par exemple, comme vous le voyez ici, de la polymérisation interfaciale autour soit d'une nanogouttelette d'huile ou d'une nanogouttelette d'eau, on va pouvoir obtenir ce que l'on appelle des systèmes réservoirs que nous appelons, vous le voyez, des nanocapsules. Et vous voyez que l'apparence morphologique de ces nanocapsules est bien différente des nanosphères alors qu'on va utiliser le même biomatériau. Alors il est évident que le cœur, la nanogouttelette encapsulée, sera aqueuse ou huileuse, suivant le médicament que l'on va encapsuler, va être soluble dans l'huile ou va être soluble dans les phases aqueuses. Alors comme l'a montré par exemple Kataoka, au Japon, on peut aussi, vous le voyez, utiliser ce que l'on appelle des polymères amphiphiles, c'est-à-dire des polymères qui vont avoir une partie complètement hydrophile et une autre partie complètement hydrophobe, et on va pouvoir former ce que l'on appelle des micelles polymères qui vont avoir une taille à peu près d'une dizaine de nanomètres. Et puis, qu'il me soit permis aussi de faire référence à une collaboration extrêmement récente que nous avons avec l'équipe de Gérard Ferret à l'Institut Lavoisier à Versailles, et qui nous a permis finalement de développer des systèmes nanoporeux hybrides à base, vous le voyez, de carboxylate de fer, dans lequel il est tout à fait possible de définir des tailles de pores qui vont correspondre exactement à la taille moléculaire de, du principe actif du médicament qui va être invité. Alors, vous le voyez, tout ceci pour vous dire, quand vous regardez toutes ces morphologie de vecteurs en microscopie électronique à transmission ou après cryofracture, eh bien, vous voyez très très bien que l'on va pouvoir, on dispose actuellement d'un arsenal de nanovecteurs qui est extrêmement riche, qui est extrêmement varié et qui est extrêmement divers. Mais je dois vous le dire, tous ces nanovecteurs vont se caractériser tous par deux composants. D'une part, comme je l'ai représenté schématiquement ici, un cœur, et également une couronne. Et il est possible à l'heure actuelle, en particulier grâce à la chimie des matériaux et à la chimie de surface, eh bien, il est parfaitement possible d'équiper à la fois le cœur et la couronne de ces nanomatériaux de toute une série de fonctionnalités. Et je voudrais aujourd'hui vous montrer ces fonctionnalités et vous les illustrer par quelques exemples dans le domaine du médicament. Alors tout d'abord, le cœur peut être utilisé pour rendre les médicaments invisibles et en particulier, vous le voyez, invisibles vis-à-vis des mécanismes de détoxification de l'organisme. Et je voudrais illustrer cela par un développement que nous avons fait au laboratoire il y a déjà quelques années, en développant des nanoparticules biodégradables à base de polyalkylcyanoacrylate, qui vont encapsuler un médicament anticancéreux qui est la doxorubicine, pour rendre ce médicament anticancéreux invisible vis-à-vis des pompes d'efflux et traiter ainsi l'hépatocarcinome que l'on dit MDR résistant, c'est-à-dire qui est résistant à pratiquement tous les traitements. Alors pourquoi est-ce que ces pathologies, cet hépatocarcinome résistant et d'autres tumeurs résistantes sont résistantes à la plupart des traitements ? Eh bien, essentiellement, comme vous le voyez dans cette partie-là de la diapositive, parce que beaucoup de ces cellules cancéreuses vont hyper-exprimer au niveau de leur membrane ce que l'on appelle des protéines d'efflux, c'est-à-dire notamment la MRP, ou encore comme représentée ici la P-glycoprotéine. Et en fait, ces protéines, elles vont finalement combattre le traitement, c'est-à-dire que lorsqu'on va administrer un médicament que j'ai représenté ici par des petites boules rouges, eh bien, cette protéine va effluer le médicament anticancéreux, vous le voyez, de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. C'est vraiment un mécanisme de détoxification. Et vous le voyez, une illustration de cela, vous le voyez dans la partie droite de la diapositive. Si vous prenez une lignée leucémique tumorale qui est résistante à la doxorubicine et que vous incubez ces cellules cancéreuses avec des concentrations croissantes en doxorubicine, eh bien, vous voyez très clairement que vous n'aurez aucune mortalité cellulaire, quelle que soit la concentration, parce qu'encore une fois, la protéine d'efflux, les protéines d'efflux jouent leur rôle et le cancer, les cellules cancéreuses sont totalement insensibles au traitement. Alors, l'idée a été finalement de camoufler la doxorubicine de la reconnaissance par la P-glycoprotéine à l'intérieur, vous le voyez, du nanoréseau polymère de nanosphères biodégradables. Et de cette manière-là, c'est ce que vous voyez ici en rouge, si on incube la doxorubicine, mais cette fois-ci, vous le voyez, sous forme de nanoparticules, on va tromper, je dirais, les protéines d'efflux, et vous voyez qu'on va restaurer en rouge la sensibilité des cellules cancéreuses au traitement, puisque pour des concentrations de l'ordre de 10 à 100 nanogrammes par millilitre, vous voyez que vous allez avoir une mortalité cellulaire. Alors, avec l'équipe de Christian Trépeau et la société BioAlliance dont on a parlé, eh bien, on a regardé si ce concept pouvait effectivement être appliqué in vivo, et en particulier dans le cas de l'hépatocarcinome multidrogue résistant, c'est-à-dire MDR résistant, exprimant le phénotype de la résistance. Et c'est une expérience qui a été faite avec des souris transgéniques qui vont donc développer spontanément un hépatocarcinome. Alors, vous voyez que quand on traite ces souris avec ce médicament anticancéreux, la doxorubicine, qui est piégée dans des nanoparticules de polyisoexylcyanoacrylate, que ce soit par analyse tunnel ou par simple comptage histologique, eh bien, vous voyez qu'on va observer un très grand nombre de cellules cancéreuses qui vont entrer en apoptose, c'est-à-dire en mort cellulaire. Si vous traitez ces souris par de la doxorubicine sous forme libre, c'est-à-dire dans la formulation galénique que je qualifierais de traditionnelle, eh bien, vous voyez que vous allez avoir des taux d'apoptose qui sont extrêmement faibles et qui ne sont guère supérieurs significativement à l'administration d'un placebo, c'est-à-dire d'une simple solution glucosée à 5%. Et actuellement, cette technologie est développée en essai clinique de phase 2-3 par la société BioAlliance. Alors, on peut encore faire mieux. On peut doter, vous le voyez, le cœur de ces nanovecteurs d'une fonctionnalité non plus d'encapsulation, mais de co-encapsulation de plusieurs médicaments. Vous savez que maintenant, on a des médicaments qui sont de plus en plus spécifiques, qui tapent sur une cible biologique. Eh bien, l'idée ici, c'est de co-encapsuler plusieurs médicaments, plusieurs principes actifs, qui vont agir sur des cibles biologiques différentes. Et je reprends mon exemple du traitement du cancer qui est résistant à pratiquement tous les traitements, qui est dit MDR résistant. Et ce que l'on a fait ici, vous le voyez, on a utilisé le même nanovecteur, la même nanosphère, mais on a inclus dans cette nanosphère non seulement le médicament anticancéreux, la doxorubicine, qui, vous le savez, est un intercalant de l'ADN, et donc sa cible, clairement, c'est l'ADN de la cellule cancéreuse, mais on y a rajouté de la cyclosporine, et vous savez que la cyclosporine est un substrat de la P-glycoprotéine, et cette molécule va être capable de bloquer la capacité des flux de la P-glycoprotéine. On va donc avoir deux médicaments qui, sur une même maladie, vont agir sur deux cibles différentes. Et vous voyez dans la partie inférieure gauche de cette diapositive que ce concept marche. En effet, encore une fois, si on incube la doxorubicine sous forme libre, on n'a aucune mortalité des cellules cancéreuses. C'est encore ici une lignée leucémique. Si on traite avec les nanoparticules contenant uniquement de la doxorubicine, eh bien, vous voyez qu'on restaure une partie de la sensibilité de ces cellules cancéreuses au traitement. Si on rajoute, vous le voyez, de la cyclosporine dans la nanomatrice, eh bien, vous voyez qu'on va encore gagner, c'est une échelle logarithmique, pratiquement un log en termes d'efficacité, et on va redonner, on va acquérir à nouveau, je dirais, une thérapeutique qui est aussi efficace que la doxorubicine sur des cellules, sur la lignée correspondante, mais lorsque il n'y a pas de PGP, lorsque ce sont des cellules sensibles. Et donc, vous voyez en quoi l'encapsulation de deux médicaments agissant sur deux cibles différentes peuvent effectivement apporter une amélioration dans la thérapeutique de ces cancers, au moins au niveau préclinique, de ces cancers qui sont dits MDR résistants. Troisième fonctionnalité dont on peut équiper le cœur de ces nanovecteurs pour l'administration du médicament, c'est d'utiliser des biomatériaux, vous voyez encore l'importance des recherches dans le domaine de la chimie des matériaux, développer des biomatériaux qui vont être utilisés pour permettre la libération du médicament en réponse à un stimuli externe, un stimulus externe. Ce stimulus externe peut être une modification de pH, puisque vous savez que dans certaines tumeurs, on a une toute petite diminution du pH. Ça peut être une modification de la force ionique, ça peut être une modification de la température, ça peut être aussi l'application d'un champ magnétique extracorporel. Et je voudrais vous illustrer ceci par un travail extrêmement récent qui a été fait dans mon groupe par José Luis Arias et Arivardhan Lakhireddy. Et l'idée, ça a été de développer des nanoparticules qui sont guidées par un champ magnétique extracorporel. Le concept est simple. On va faire des nanoparticules qui sont sensibles à un champ magnétique extracorporel et on va positionner, comme vous le voyez, un aimant au niveau de la tumeur de manière à attirer ces nanovecteurs avec leur contenu en médicament de manière sélective au niveau de la tumeur. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, tout d'abord, on a utilisé à une prodrogue anticancéreuse qui, je vous en reparlerai ici, est en fait un bioconjugué entre un médicament anticancéreux qui est un blockbuster, qui est la gemcitabine, et d'autre part un lipide naturel qui est le squalène. Et quand vous faites ce couplage, je vous l'expliquerai ultérieurement, eh bien, ces bioconjugués de gemcitabine-squalène forment des nano-assemblages d'une manière tout à fait spontanée. Mais nous avons équipé ces particules, vous le voyez ici, de particules ultra fines, encore beaucoup plus petites, d'oxyde de fer. Alors vous savez que l'oxyde de fer, les oxydes de fer ont, je dirais, deux fonctionnalités, deux caractéristiques importantes. C'est que d'une part, ces particules sont sensibles à un champ magnétique extracorporel, et puis d'autre part, ils donnent un signal en résonance magnétique nucléaire. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, vous le voyez, on a greffé des cellules tumorales par voie sous-cutanée à un animal de laboratoire, une souris en l'occurrence, et puis on va suivre tout simplement le volume tumoral en fonction du temps et en fonction du traitement. Alors, voyez très très bien que les animaux qui ne sont pas traités, en noir, hein, ce sont les petites boules noires, eh bien, voyez que la tumeur va croître extrêmement rapidement. Si vous traitez maintenant ces animaux par une dose extrêmement faible, hein, de 5 mg par kilo, de gemcitabine sous forme libre, c'est le Gemsar qui est sur le marché à l'heure actuelle, eh bien vous voyez que cette molécule n'a aucune activité sur cette tumeur expérimentale. Si vous prenez maintenant les nanoparticules de gemcitabine squalène, mais qui ne sont pas équipées des particules d'oxyde de fer, mais vous voyez qu'on va ralentir la croissance de la tumeur, donc on a effectivement une activité pharmacologique anticancéreuse, mais vous voyez qu'après une quinzaine de jours, on va de nouveau avoir une augmentation de la croissance tumorale. Si maintenant vous prenez ces mêmes nanoparticules, mais que j'appelle composites parce qu'elles sont constituées de la prodrogue anticancéreuse et des particules ultrafines d'oxyde de fer, et que l'on positionne un champ magnétique extracorporel au niveau de la tumeur, eh bien vous voyez qu'on va pratiquement faire disparaître la tumeur. Et ce qui est intéressant, c'est que puisque, comme je vous le disais, c'est toute petite particule de quelques nanomètres d'oxyde de fer donne un signal en imagerie, eh bien on va pouvoir suivre le traitement en imagerie IRM. Vous voyez ici la coupe de la souris qui s'est faite donc à ce niveau-ci. Vous reconnaissez ici la tumeur. On peut zoomer sur la tumeur et vous voyez très très bien la masse tumorale des animaux traités par les nanoparticules de prodrogues anticancéreuses contenant les particules d'oxyde de fer, mais lorsque l'on n'a pas mis un champ magnétique extracorporel. Vous voyez que la tumeur est relativement importante après à peu près une quinzaine ou une vingtaine de jours. Vous voyez que si on traite avec les nanoparticules magnétiques, eh bien, vous voyez qu'on a réduit de manière considérable la masse tumorale et vous pouvez voir les petits points noirs, c'est une diminution du signal T2 en résonance magnétique nucléaire qui vous montre bien, comme ça a été montré ici en histologie, qu'effectivement, ces particules d'oxyde de fer avec la gemcitabine squalène sont bien attirées par l'aimant au niveau de la tumeur. Alors, ceci permet de développer un concept qui est, me semble-t-il, extrêmement intéressant et qui est le concept de nanotéragnostic, c'est-à-dire finalement développer des nanovecteurs qui ont une double fonctionnalité, une fonctionnalité pharmacologique finalement de traiter la tumeur, mais également une fonctionnalité d'imagerie et de diagnostic qui permet de visualiser la tumeur, qui permet de suivre le traitement, et évidemment tout ceci ouvre la voie, si on le transpose en clinique, à ce que l'on appelle la médecine personnalisée, puisqu'on pourra imaginer de suivre chez le patient le traitement qui a été effectué, l'arrêter s'il n'est pas efficace, ou au contraire le continuer si la tumeur répond bien.
Vous écoutez France Culture, la leçon inaugurale de Patrick Couvreur. Les nanotechnologies peuvent-elles contribuer à traiter des maladies sévères? En 2010, au Collège de France.
Alors, il faut savoir que tous ces vecteurs, tous ces nanovecteurs, lorsqu'ils sont administrés par voie intraveineuse et lorsqu'on ne met pas un aimant extracorporel au niveau de la tumeur, eh bien, ils vont avoir, après injection intraveineuse, une distribution tissulaire qui est tout à fait particulière. Et on peut dire que ça va être un relativement général pour tous les colloïdes, que ce soit des polymères, que ce soit des lipides, que ce soit des liposomes, des nanoparticules, des oxydes de fer sans aimant. On va toujours avoir, vous le voyez, une concentration importante de ces nanovecteurs injectés par voie intraveineuse, principalement au niveau du foie. Vous voyez très bien les deux lobes hépatiques au niveau de cette autoradiographie. Au niveau de la rate, c'est le petit triangle que vous voyez ici, et dans une moindre mesure, au niveau de la moelle, c'est ce que l'on appelle, grosso modo, le système réticulo-endothélial. Alors, pourquoi est-ce que tous ces vecteurs vont dans le foie? Eh bien, ils vont dans le foie parce que vous pouvez calculer que si vous administrez un gramme de liposome ou de nanoparticules de quelques dizaines ou quelques centaines de nanomètres, vous allez, par un simple calcul de surface-volume, vous allez présenter à l'organisme des surfaces spécifiques qui sont absolument considérables. Et ceci ne va pas être neutre pour l'organisme, parce que l'organisme, il va réagir, et en particulier, il va induire l'adsorption, c'est ce que vous voyez ici en jaune, l'adsorption de protéines plasmatiques à la surface de ces nanovecteurs. Et parmi ces protéines plasmatiques, eh bien, vous allez avoir ce que l'on appelle des opsonines. Les opsonines, c'est les fragments FC des immunoglobulines, c'est la fibronectine, c'est le complément qui va être activé. Et finalement, je dirais que c'est une signature immunologique de l'organisme qui désigne ces particules comme étant du non-soi, comme étant finalement des particules exogènes. Et que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, une fois que ces particules ont cette signature moléculaire du non-soi, elles vont être immédiatement reconnues, vous le voyez ici, par des macrophages qui sont localisés au niveau du tissu hépatique, que l'on appelle les cellules de Kupffer, et ces particules, ces nanovecteurs, vont être captés en grande quantité par les cellules de Kupffer. Et vous le voyez très très bien ici, si vous faites une biopsie du foie et que vous regardez en microscopie électronique, eh bien, vous allez voir des quantités considérables après injection intraveineuse de nanoparticules, mais c'est vrai aussi pour les liposomes, à l'intérieur d'endosomes ou de lysosomes de ces fameuses cellules de Kupffer. Alors ça, c'est intéressant, évidemment, quand on veut traiter des pathologies hépatiques, comme l'hépatocarcinome. Il n'est pas neutre, évidemment, qu'on ait choisi l'hépatocarcinome comme, cible thérapeutique de ces vecteurs que j'appelle des vecteurs de première génération. Mais il est évident que quand on veut cibler d'autres territoires biologiques, eh bien, à ce moment-là, on est obligé d'éviter cette capture hépatique, puisque ce n'est pas la cible. et de doter la couronne d'une fonctionnalité que j'appelle la furtivité. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, essentiellement d'utiliser principalement des polymères très hydrophiles et très flexibles qui vont être capables d'induire une répulsion stérique vis-à-vis des opsonines et de permettre ainsi une non-reconnaissance par le foie et la vectorisation passive vis-à-vis de tumeurs qui vont être localisées dans d'autres zones, dans d'autres territoires non hépatospléniques de l'organisme. Alors, par exemple, c'est ce que nous avons fait toujours avec ce polymère, ce polyalkylcyanoacrylate, en développant, vous le voyez, en fait, un copolymère amphiphile, alors désolé, c'est un terme un petit peu barbare, de polyhexadécyl copolyéthylène glycol cyanoacrylate. De quoi s'agit-il ? Le nom est compliqué, mais le concept est simple. On a tout simplement un polymère amphiphile avec une partie très hydrophobe, c'est la partie hexadécyl que vous voyez ici, et une partie très hydrophile, c'est le polyéthylène glycol. Eh bien, quand vous mettez ce polymère amphiphile dans l'eau, il va s'auto-organiser spontanément avec la partie hydrophobe que vous voyez ici, qui correspond à l'hexadécyl, et dans lequel vous allez pouvoir disperser, encapsuler, entraper le médicament, et la partie hydrophile, qui est le polyéthylène glycol, que vous voyez ici en rouge, et qui va réaliser réellement ce que l'on appelle une répulsion stérique, c'est-à-dire qui va empêcher les protéines plasmatiques, et en particulier les opsonines, représentées ici en bleu, de venir s'absorber à la surface de ces vecteurs. Et le résultat, eh bien, il est immédiat, vous le voyez, en termes de pharmacocinétique. Si vous injectez des vecteurs qui ne sont pas décorés par ces polyéthylènes glycol en rouge, ces vecteurs de première génération, captés par le foie, c'est ce que vous voyez ici en jaune, eh bien, vous voyez qu'on va avoir une pharmacocinétique avec une clairance plasmatique extrêmement rapide, tout simplement parce que le tissu hépatique va capter ces particules extrêmement rapidement. En revanche, si vous pégilez ces particules, donc si vous les décorez de polyéthylène glycol, eh bien, vous voyez que ces particules ne vont pas être reconnues par le foie, ou du moins elles vont l'être moins, et elles vont tourner beaucoup plus longtemps dans la circulation générale. C'est ce que les anglo-saxons appellent des stealth nanoparticules sous liposome. Tout simplement, ce sont des vecteurs furtifs, parce qu'un peu comme les avions furtifs ne sont pas reconnus par les radars au sol, eh bien, ces nanoparticules ou ces liposomes pégilés et furtifs de deuxième génération ne sont pas reconnus par les macrophages du foie et de la rate, et donc ils vont tourner beaucoup plus longtemps dans la circulation générale. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'avoir des nanovecteurs, des nanoobjets qui vont tourner ainsi longtemps dans la circulation générale ? Ben, premièrement, vous pouvez cibler d'autres compartiments que le foie, notamment tout le compartiment vasculaire et éventuellement, par exemple, traiter des leucémies. Mais à côté de cela, je vais dire que la nature va nous aider. Parce qu'en fait, vous savez qu'au niveau du tissu sain, eh bien, la paroi des vaisseaux est constituée de ce que l'on appelle un endothélium vasculaire qui est jointif. C'est-à-dire, vous le voyez ici, entre les cellules endothéliales, eh bien, il n'y a pas de trou, et donc, par conséquent, ces vecteurs qui tournent longtemps dans la circulation générale ne vont pas pouvoir faire de translocation, d'extravasation au niveau tissulaire. En revanche, vous voyez, quand vous avez une tumeur, eh bien, vous avez évidemment une réaction inflammatoire, vous avez l'arrivée de nombreux macrophages, la libération de cytokines, et donc vous allez avoir une augmentation de la perméabilité de l'endothélium vasculaire. Et ces vecteurs, s'ils tournent suffisamment dans la circulation générale, eh bien vous voyez qu'ils vont pouvoir faire de l'extravasation sélective au niveau de la tumeur, parce que l'endothélium est rendu beaucoup plus perméable. C'est ce que les anglo-saxons appellent l'effet EPR, pour Enhanced Retention and Permeability, Enhanced Permeability and Retention Effect, ça veut dire une augmentation de la perméabilité vasculaire, mais aussi une rétention à l'intérieur du tissu tumoral. Et pourquoi est-ce qu'on a une rétention au niveau du tissu tumoral ? Eh bien, essentiellement parce que vous savez que les tumeurs sont caractérisées par un drainage lymphatique, et si vous présentez le médicament sous une forme particulière, aussi petite soit-elle, eh bien, vous aurez une résidence beaucoup plus importante du médicament sous forme de nanotechnologie, vous le voyez, dans le tissu tumoral. C'est ce que moi j'appelle aussi de la vectorisation passive. Alors, il y a une équipe des collègues japonais qui ont été finalement les premiers à montrer, à visualiser ce fameux effet EPR d'augmentation de la perméabilité vasculaire et de l'accumulation au niveau des tumeurs avec un vecteur de deuxième génération. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris ici des liposomes qu'ils ont décorés de polyéthylène glycol et ils ont rempli, ils ont encapsulé dans ces liposomes, vous le voyez, un colorant fluorescent qui est de la fluorescéine. Et ils ont injecté ces liposomes pégylés chargés en fluorescéine à des animaux en regardant la distribution de ces nanovecteurs pégylés au niveau du tissu sain et au niveau du tissu tumoral, puisqu'ils avaient greffé par voie sous-cutanée un nodule tumoral, des cellules tumorales chez ces mêmes souris. Alors, voyez qu'au niveau du tissu sain, eh bien, on voit que ces liposomes pégylés restent au niveau de l'espace vasculaire, au niveau de la circulation générale. Et vous voyez très clairement qu'au niveau de la tumeur, parce que vous avez cet effet EPR, parce que vous avez cette perméabilité accrue, eh bien, les liposomes vont quitter l'espace vasculaire et au contraire, ils vont diffuser au niveau du tissu tumoral, comme vous le voyez très très bien ici. Encore une fois, c'est de la vectorisation passive. Alors, en particulier avec l'équipe de Gilles Vassal à l'IGR, on a montré que cet effet EPR pouvait être appliqué à des technologies pour le traitement de maladies cérébrales extrêmement sévères et en particulier une tumeur cérébrale que beaucoup d'entre vous connaissent et qui est le gliome cérébral avec, vous le savez, un très très mauvais pronostic. Alors ici, peu importe, c'est un modèle qu'on appelle le gliome 9L qui est injecté par stéréotaxie dans le cerveau des animaux et on va ensuite préparer ces nanoparticules de deuxième génération marquées au carbone 14 que l'on va injecter par voie intraveineuse à ces animaux et on va ensuite regarder la pénétration cérébrale de ces vecteurs au niveau de la tumeur et au niveau du tissu sain. Alors, voyez qu'au niveau de la tumeur, vous voyez les concentrations en radioactivité, puisque le polymère, je vous l'ai dit, est marqué au carbone 14, après 1 heure, après 2 heures, après 4 heures et après 8 heures. Vous voyez très très bien cet effet EPR de translocation sélective au niveau de la tumeur, mais aussi d'accumulation, grâce à la forme particulière. Vous voyez que si l'on regarde ce qui se passe au niveau de l'hémisphère contralatéral, qui est l'hémisphère sain de l'animal de laboratoire, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pratiquement, même totalement, aucune pénétration cérébrale. Et donc, vous voyez que clairement, par ce biais-là, on peut faire un ciblage sélectif de ces vecteurs de deuxième génération au niveau d'une tumeur cérébrale, essentiellement parce qu'au niveau du gliome, au niveau du nodule tumoral, vous avez une augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, comme nous l'avons montré ici avec un colorant, vous le voyez, qui passe uniquement en histologie aux endroits où vous avez effectivement les cellules tumorales. Alors on s'est dit, mais si finalement c'est le processus inflammatoire qui permet d'augmenter la perméabilité vasculaire et de faire passer finalement ces vecteurs pégylés de deuxième génération par vectorisation passive au niveau des tumeurs, ben, ce concept pourrait s'appliquer à d'autres maladies cérébrales qui se caractérisent en effet par une réaction inflammatoire. Et on s'est intéressé en particulier à l'encéphalomyélite auto-immune expérimentale, qui est une maladie auto-immune du cerveau, qui se caractérise par une très forte réaction inflammatoire, notamment au niveau de la moelle épinière, au niveau du cervelet, au niveau du colicoulis. Alors, si vous prenez des nanoparticules de première génération et que vous les administrez à des animaux sains ou à des animaux porteurs de cette maladie, vous n'avez pas de pénétration cérébrale. Si vous prenez des nanoparticules pégylées, comme je l'ai représenté ici, de deuxième génération, que vous injectez par voie intraveineuse à des animaux sains ou contrôles, que vous voyez ici en jaune et en blanc, et si on fait une microchirurgie de tous les tissus cérébraux, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucune pénétration intracérébrale. En revanche, si vous faites l'administration des mêmes systèmes nanoparticulaires à des animaux qui sont porteurs de l'encéphalomyélite auto-immune expérimentale, et c'est ce que vous voyez en rouge, eh bien, vous voyez que vous avez une translocation cérébrale extrêmement importante de ces particules, en particulier au niveau des zones inflammatoires, comme vous le voyez ici, la moelle épinière, hein, qu'elle soit lombaire, thoracique, etc., également le cervelet et le colicoulite. Et donc, vous voyez très très bien que c'est effectivement la réaction inflammatoire qui va favoriser la translocation des particules. Alors, en faisant ce que l'on appelle de la microscopie confocale, on a essayé de décortiquer un peu le mécanisme de translocation de ces nanovecteurs au niveau cérébral. Et comme vous le voyez dans la partie inférieure droite de la diapositive, en fait, on a marqué les structures cérébrales avec un anticorps marqué à la rhodamine, ça vous permet de les voir en rouge, et on a marqué les nanoparticules pégylées, tout simplement, avec un colorant fluorescent jaune. Alors, voyez que dans le cerveau, après injection intraveineuse, on va retrouver, vous le voyez, un nombre important de nanoparticules, je dirais individuelles, dispersées dans les structures cérébrales. C'est le fameux effet EPR. Mais on a vu également, comme vous le voyez ici, d'autres structures, et en particulier l'association de ces nanoparticules avec des macrophages inflammatoires. Et sans rentrer dans les détails, on a un petit peu décortiqué ce mécanisme et on a vu qu'en fait, ces macrophages inflammatoires étaient présents dans la circulation générale. Comme on a des vecteurs qui tournent longtemps dans la circulation générale, ces macrophages vont les capter dans l'espace vasculaire. Et puis, vous savez que les macrophages inflammatoires, ils font du homing, c'est-à-dire qu'ils vont filer vers les zones d'inflammation cérébrale et la translocation par diapédèse de ces macrophages va se faire avec leur contenu, comme vous le voyez ici, en nanoparticules. Et donc, vous voyez que les mécanismes sont un petit peu plus complexes que la simple translocation, si je puis dire, de particules individuelles. Et ceci est intéressant parce que vous savez que les cellules cibles de cette encéphalomyélite auto-immune expérimentale, eh bien, ce sont précisément ces macrophages inflammatoires. Et vous voyez qu'on peut utiliser des nanotechnologies pour effectivement cibler de manière sélective ces macrophages. Alors, on peut aller encore plus loin. Et on peut équiper la couronne, vous le voyez, d'un élément ou de plusieurs éléments de reconnaissance moléculaire de la cible biologique. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va utiliser tout simplement des ligands de manière à permettre l'adressage moléculaire de ces nanotechnologies et de faire ce que l'on pourrait appeler cette fois-ci non plus de la vectorisation passive, mais de la vectorisation active. Ce ne sont plus des vecteurs de deuxième génération, mais c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler des vecteurs de troisième génération qui sont adressés, je dirais, à l'échelle moléculaire. Alors, je voudrais vous illustrer cela par un travail récent que l'on a fait avec une équipe de neurosciences de l'université ACPT à Ankara, en Turquie, avec l'équipe en particulier de Turkay d'Alkara, qui avait l'habitude, qui travaille dans le domaine de l'ischémie cérébrale et qui avait développé, ou dans tous les cas, qui travaillait avec un peptide anti-caspase 3. Vous savez, quand il y a de l'ischémie cérébrale, il y a de la mort cellulaire, donc il y a de l'apoptose, et cela se fait notamment par la voie des caspases, et en particulier de la caspase 3. Malheureusement, quand vous administrez ce peptide par voie intraveineuse, il est totalement inefficace sur l'ischémie cérébrale parce que, d'une part, la molécule est très vite dégradée dans le torrent circulatoire et, d'autre part, parce qu'elle est trop grande, elle est trop hydrophile, elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, donc elle ne rentre pas au niveau cérébral. Et l'idée était de dire, développons des nanovecteurs, cette fois-ci de troisième génération, pour amener ce peptide anti-caspase au niveau cérébral. Alors, pour cela, on a utilisé un autre polymère. Vous voyez qu'il n'y a pas que les polyalkylcyanoacrylates. On a utilisé un polymère naturel, cette fois-ci, qui est le chitosan, qui est un polysaccharide cationique. On a, vous le voyez, couplé à ce chitosan en bleu un polyéthylène glycol pour éviter la capture par le foie, puisqu'on veut évidemment aller au niveau des structures cérébrales. Mais au bout de ce polyéthylène glycol, vous le voyez, on a mis, c'est là ce que vous voyez ici en rouge, une petite molécule de biotine. Vous allez voir pourquoi. Alors, ce polymère est soluble dans l'eau, mais si vous ajoutez un polyphosphate, eh bien, vous allez induire la nanoprécipitation de ce polymère sous forme de nanoparticules de chitosan pégylé avec une biotine à l'extrémité des chaînes de polyéthylène glycol. Là, on est toujours avec un vecteur pégylé de deuxième génération. Alors, on a voulu fonctionnaliser ce vecteur de deuxième génération avec un anticorps monoclonal qui est l'anticorps OX26. Alors, pourquoi l'anticorps OX26? Eh bien, parce que, comme vous le voyez dans la partie inférieure gauche de la diapositive, vous voyez qu'au niveau des cellules endothéliales cérébrales, de la barrière hémato-encéphalique, il y a des récepteurs que vous voyez ici en rouge et qui sont les récepteurs de la transférine. Et ces récepteurs, évidemment, ont pour rôle de prendre la transférine de l'espace vasculaire et de l'amener au niveau cérébral par translocation via les cellules endothéliales cérébrales. Et l'idée, ça a été d'utiliser un anticorps qui est l'anticorps OX26 et qui va reconnaître sélectivement ce récepteur cérébral pour finalement utiliser ce récepteur cérébral comme porte d'entrée pour faire rentrer ces nanovecteurs au niveau cérébral. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a pris cet anticorps OX26 que vous voyez ici. On l'a couplé tout simplement à de la streptavidine. Pourquoi ? Parce que vous le savez, d'un point de vue chimique, la biotine et la streptavidine sont des molécules qui s'adorent. Elles ont une constante d'affinité extrêmement importante. Et vous voyez qu'on peut faire un véritable Lego, c'est-à-dire qu'on prend ces nanoparticules pegylées et biotinylées, on ajoute l'anticorps streptavidinylé et on obtient un vecteur de troisième génération qui est décoré par l'anticorps monoclonal OX26 qui va reconnaître le récepteur de la transférine. Alors, encore faut-il le montrer expérimentalement. Et pour cela, vous le voyez, on a mis à l'intérieur du cœur de ces nanovecteurs un colorant fluorescent. On a injecté cela à des animaux de laboratoire sains. Et vous voyez qu'on a retrouvé des quantités considérables de particules fluorescentes au niveau du cerveau.
Le Collège de France et France Culture vous présente Patrick Couvreur. Les nanotechnologies peuvent-elles contribuer à traiter des maladies sévères ?
Juste pour vous dire que si on utilise ces particules, ces nanovecteurs de deuxième génération qui ne sont pas décorés par l'anticorps OX26, et si vous refaites la même expérience, vous ne voyez rien du tout. Ce qui vous montre bien que le ligand est fondamental pour le passage transendothélial au niveau de la barrière hémato-encéphalique de ces particules. Et ceci a été confirmé tout simplement en faisant des biopsies cérébrales et ensuite en faisant de la microscopie électronique à transmission. Alors vous retrouvez très très bien ici l'espace vasculaire, vous voyez très très bien les cellules endothéliales de la barrière hémato-encéphalique et vous voyez que dans ces cellules endothéliales, vous avez des quantités considérables de nanoparticules, donc qui ne sont pas passées par un mécanisme paracellulaire, mais qui sont bien passées par un mécanisme que l'on peut qualifier de transcellulaire. Alors ensuite, on a regardé évidemment si ça marchait sur l'ischémie cérébrale. Alors pour cela, on va tout simplement induire une ischémie cérébrale chez le rat en clampant l'une des deux carotides, carotide droite ou carotide gauche, et on va induire donc une zone ischémiée dont on peut mesurer le volume. Alors vous voyez ici, les animaux non traités vont représenter un volume d'ischémie cérébrale qu'on peut parfaitement mesurer. Si vous traitez ces animaux, alors soit par le peptide anticaspase sous forme libre d'une simple solution, soit par des nanoparticules mais qui n'ont pas l'anticorps monoclonal OX26, eh bien vous voyez que vous n'allez pas guérir ou dans tous les cas améliorer la situation de ces animaux. Le volume de l'infarct cérébral est à peu près le même. En revanche, si vous prenez des nanoparticules qui vont encapsuler le peptide anticaspase 3 à deux doses, comme vous le voyez ici, 50 nanogrammes et 188 nanogrammes, mais dans des particules qui sont fonctionnalisées par ce fameux anticorps OX26, eh bien, vous voyez de manière extrêmement claire que vous allez réduire de manière tout à fait significative le volume de l'infarct, pratiquement même à moitié du volume de l'infarct pour les animaux non traités. Et ceci se traduit également sur le plan du score que l'on obtient en termes cliniques, puisque vous savez qu'on peut donner un score. Les animaux, en particulier, qui ne sont pas traités, eh bien, ils vont avoir une paralysie totale de l'espace du flanc contralatéral par rapport à l'endroit où l'ischémie cérébrale a eu lieu. Vous voyez que le peptide seul et la nanoparticule sans anticorps OX26 n'améliorent pas du tout le score neurologique de ces animaux. Et par contre, vous voyez que les nanoparticules qui sont fonctionnalisées par l'anticorps OX26 et qui contiennent le peptide anticaspase vont en effet voir leur score clinique très largement amélioré. Mesdames, Messieurs, j'espère vous avoir convaincu qu'en effet, de grands progrès ont été faits dans le développement des nanotechnologies pour le médicament. Il y a de plus en plus de publications dans le domaine. On peut évidemment s'étonner du peu de nanomédicaments qui ont été mis sur le marché à l'heure actuelle. Ils sont grosso modo une petite dizaine, même un petit peu moins qu'une petite dizaine. À quoi cela est-il dû ? Alors que derrière, il y a quand même une recherche fondamentale d'excellent niveau dans de très nombreux pays d'ailleurs. Eh bien, c'est parce que d'importants verrous technologiques demeurent. Et à mon sens, ces verrous technologiques sont principalement de deux ordres. Le premier ordre, c'est ce que l'on appelle le burst release, c'est-à-dire la libération non contrôlée du médicament avant d'avoir atteint le site d'action. En effet, les galénistes savent très bien que quand on dit que l'on encapsule tant pour cent d'une molécule biologiquement active dans des liposomes ou dans des nanoparticules, ben, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une fraction du médicament qui est vraiment piégée dans la nanomatrice polymère ou encapsulée, mais vous le voyez comme je l'ai représenté ici, vous avez une fraction importante du médicament qui va être absorbée en surface. Et quand vous allez administrer ce type de nanovecteur, vous comprenez bien qu'au niveau du torrent circulatoire, vous allez avoir une compétition avec la très grande quantité des protéines plasmatiques qui sont présentes dans le torrent circulatoire, et vous allez avoir une désorption immédiate, extrêmement rapide, vous le voyez, de ce médicament qui est simplement absorbé en surface. C'est ce que les anglo-saxons appellent le burst release, c'est ce que nous, les francophones, nous pourrions appeler la libération immédiate et non contrôlée par la cible pharmacologique. En d'autres termes, le médicament va être libéré avant d'atteindre le site d'action. C'est un premier problème. Deuxième problème, c'est ce que j'appelle le taux de charge. Alors, le taux de charge, c'est facile à comprendre, c'est tout simplement la quantité de médicaments par rapport à la quantité de vecteurs. C'est combien de milligrammes de médicaments sont vectorisés par combien de milligrammes de lipides, de polymères biodégradables, etc. Et quand on atteint un taux de l'ordre de 5%, 5 mg de médicaments pour 100 mg de matériel vecteur, ben en général, on est assez satisfait. Alors, ça pose un petit problème, parce que, ou bien, vous le voyez, la quantité de médicaments administrés va être insuffisante. Dans tous les cas, les concentrations médicamenteuses au niveau du site d'action vont être insuffisantes et on aura évidemment une faible efficacité, voire une inefficacité sur le plan thérapeutique. Alors vous allez me dire, mais on peut administrer des quantités beaucoup plus importantes, mais alors il va être nécessaire d'administrer des grandes quantités de matériel vecteur. Vous comprenez, comme je vous l'ai montré, que ces matériels vecteurs vont se concentrer à l'intérieur des cellules, en particulier des macrophages. Vous allez avoir donc ce que l'on appelle des thésaurismoses intracellulaires, avec des risques évidemment de toxicité et d'effets secondaires. Et ça, c'est le taux de charge, c'est vraiment, je dirais, le deuxième verrou technologique que nous devons résoudre. Et c'est dans ce contexte-là que, très récemment, nous avons eu dans mon groupe une approche que je pourrais qualifier de biomimétique et qui consiste à coupler des petites molécules médicamenteuses, anticancéreuses ou antivirales, à un lipide naturel qui est le squalène. Pourquoi est-ce que je dis que c'est biomimétique ? Eh bien, tout d'abord parce que le squalène, dont vous avez la formule chimique ici, alors certains d'entre vous vont tout de suite reconnaître que c'est finalement un cholestérol ouvert, eh bien, le squalène, en fait, est effectivement un précurseur de la biosynthèse du cholestérol. Nous en avons tous dans notre organisme. Et en fait, ce squalène pourrait être cyclisé d'abord en lanostérol et puis ultérieurement en cholestérol. Eh bien, vous le voyez, il doit rentrer dans la poche hydrophobe d'une enzyme qui est représentée ici en vert et jaune et que l'on appelle en fait l'oxydosqualène cyclase. C'est elle qui va cycliser le squalène. Et le squalène, pour pouvoir rentrer dans cette poche hydrophobe, eh bien, il doit adopter une conformation moléculaire extrêmement compacte et extrêmement condensée. Et l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser justement cette caractéristique physico-chimique compacte du squalène pour y fixer un certain nombre de molécules médicamenteuses et pour former des nanomédicaments. Et on a appliqué ce concept que j'appellerais de squalénisation tout d'abord à des analogues nucléosidiques. Alors, pourquoi des analogues nucléosidiques ? Eh bien, parce que, vous le savez, ce sont des molécules qui ont une activité tantôt anticancéreuse, tantôt antivirale. Le représentant des anticancéreux, c'est la gemcitabine, dont on va reparler. Le représentant des antiviraux, ben, c'est l'AZT que vous connaissez tous, le DDI, le DDC. Ces molécules ont donc, un très, très gros potentiel thérapeutique, mais avec un certain nombre d'inconvénients. Premier inconvénient majeur, c'est que ces molécules sont métabolisées extrêmement rapidement. Et comme vous le voyez ici avec la gemcitabine, eh bien, lorsqu'on va faire l'administration intraveineuse de cette molécule, les désaminases plasmatiques vont extrêmement rapidement désaminer la gemcitabine et la transformer en difluorouracil, qui est totalement inactif. C'est d'ailleurs pour ça que les patients doivent avoir des perfusions longues à l'hôpital pour maintenir des concentrations en gemcitabine constantes. Bref, ces molécules se caractérisent par un temps de demi-vie plasmatique extrêmement court. Elles sont toutes plus ou moins peu ou prou hydrophiles. Ça veut dire qu'elles diffusent mal à travers la plupart des barrières biologiques et en particulier à travers la membrane cellulaire. Beaucoup d'entre elles ne peuvent rentrer que par un transport actif. Alors, toutes ces molécules, vous le savez, l'AZT en est un exemple, mais la gemcitabine aussi, induisent des résistances et elles ont des effets secondaires importants comme les lipodystrophies, etc., avec le DDI, le DDC et l'AZT. Et donc, l'idée, ça a été de coupler ces molécules au squalène. Alors, encore une fois, la chimie est tout à fait capitale. On est parti, vous le voyez, de l'acide squalénique et on a couplé la fonction acide au niveau de la fonction aminée sur l'hétérocycle de la gemcitabine pour obtenir un bioconjugué que l'on va appeler la gemcitabine squalène. Et si vous faites un calcul des poids moléculaires entre le squalène, qui est finalement le transporteur, et la gemcitabine, qui est la molécule active, eh bien vous voyez qu'on atteint des taux de charge qui ne sont plus de 5% mais de 50%, on a fait finalement un saut de 1 log en termes de charge de ces nanomédicaments. Alors, ce bioconjugué, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que quand vous le mettez dans de l'eau, eh bien, il va s'auto-organiser sous forme de manière totalement spontanée, sous forme de nanoparticules de 100 à 150 nanomètres. Alors, on s'est dit, mais pourquoi limiter cette technologie à une molécule qui est intéressante, qui est la gemcitabine, et pas à d'autres analogues nucléosidiques? Et on a refait, vous le voyez, le même couplage avec un anti-HIV qui est le DDC. On a à nouveau utilisé la fonction aminée sur l'hétérocycle pour obtenir le DDC squalène. Et vous voyez que quand on met ce bioconjugué dans l'eau, eh bien on a également des nanoparticules d'une centaine de nanomètres de manière tout à fait spontanée. Par auto-organisation supramoléculaire, on y reviendra. Et puis on s'est dit, mais si on couple maintenant le squalène, non plus sur l'hétérocycle, mais sur le sucre. Alors vous voyez, ça on l'a fait ici avec le DDI, qui n'a pas de fonction aminée. Et donc, on a couplé l'acide squalénique au niveau du groupement hydroxyle en 5' du sucre pour former le DDI squalène qui, dans l'eau, donne à nouveau des nanoparticules d'une centaine de nanomètres. Et puis, on s'est amusé avec, vous le voyez, l'AZT, la cytarabine qui est un anticancéreux et même une base comme la thymidine. On obtient systématiquement des nanoparticules d'une centaine de nanomètres. Alors, on a voulu essayer de comprendre pourquoi ce squalène était capable d'induire cette auto-organisation très particulière. Et en collaboration au sein de notre unité avec l'équipe de Michel Olivon, à l'époque pour lequel j'ai ici aussi également une pensée, et Claudie Bourgault, on a fait ce que l'on appelle une étude de structure pour voir comment ces molécules de gemcitabine squalène faisaient du stacking et s'auto-organisaient sous forme supramoléculaire. Et on a fait tout d'abord la cryomicroscopie. Et vous voyez qu'en regardant les profils de cryomicroscopie, on a été très étonné de voir que l'on avait réellement une organisation supramoléculaire de ces bioconjugués qui forment, vous le voyez, des plans réticulés parallèles, qui sont en fait des colonnes parallèles. Et vous voyez que sur d'autres profils en cryothème, eh bien, on voit qu'on a des petits points. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des petits points? C'est tout simplement lorsque les plans réticulés ont leur axe qui est dans le même axe que votre regard. Et évidemment, vous voyez uniquement les colonnes par le haut. C'est la raison pour laquelle on voit des petits points. Ensuite, donc, on a finalement zoomé le cœur de cette particule de manière à comprendre un petit peu mieux à l'échelle moléculaire ce qui se passait. Et on a fait de la diffraction rayons X optisangle au rayonnement synchrotron. Et on a confirmé par des raies de diffraction qu'on avait effectivement une organisation supramoléculaire. J'espère, mesdames et messieurs, vous avoir convaincu au moins partiellement que les nanotechnologies pour le transport et la vectorisation des médicaments sont en effet des nanosystèmes qui peuvent être qualifiés d'intelligents. Pourquoi intelligents? Eh bien, parce qu'ils sont capables de camoufler et de protéger le médicament de l'environnement biologique et en particulier des mécanismes, comme je vous l'ai expliqué, de détoxification. Il est possible de développer des nanovecteurs afin de contrôler la libération de la molécule active par un stimulus externe qui peut être une modification de pH, je ne vous en ai pas parlé, qui peut être un champ magnétique, des ultrasons également, bref, toute une série de stimulus. Ces nanovecteurs, s'ils sont pégylés de deuxième génération, permettent, vous l'avez vu, d'échapper à la reconnaissance immunologique par le système réticulo-endothélial. Et surtout, si vous les équipez par des ligands spécifiques, eh bien, il est possible d'adresser le médicament de manière extrêmement sélective à l'échelle moléculaire au niveau du site d'action. Alors, quels sont les futurs challenges? Parce qu'il est important, évidemment, de penser à l'avenir. Eh bien, à mon sens, ils sont principalement, bon, pas uniquement, mais principalement au nombre de trois. Le premier, c'est, et je voulais illustrer, je pense, la nécessité d'utiliser les nanotechnologies et les nanovecteurs pour le contournement des résistances. Vous savez que dans la thérapeutique moderne, on a des molécules qui sont de plus en plus spécifiques sur une voie de signalisation. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que ce sont des produits qui sont moins toxiques. L'inconvénient, c'est que ben, la nature, elle a des voies de contournement et on voit de plus en plus vite apparaître des phénomènes de résistance. Eh bien, je suis convaincu qu'actuellement, à la fois dans le domaine des cancers et des maladies infectieuses, le fait de formuler correctement le médicament, notamment sous forme de nanotechnologie, va permettre de développer des stratégies de contournement de ces résistances. Deuxième domaine, deuxième futur challenge, c'est celui finalement du développement des nanotechnologies, je vous en ai parlé, pour le théragnostic ou le nanothéragnostic, où chez le patient, on pourra à la fois faire de la thérapeutique, mais aussi du suivi du thérapeutique par le diagnostic et la médecine personnalisée. Et enfin, je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui, c'est l'utilisation des nanotechnologies comme alternative aux vecteurs viraux pour faire de la thérapie génique, c'est-à-dire, comme vous le voyez ici, pour transfecter à l'intérieur de la cellule des gènes ou des petits oligonucléotides antisense ou encore des petits ARN interférents. Alors évidemment, tout ce travail que je vous ai présenté, ben, il est clair que ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'une équipe et même de nombreuses équipes. Je voudrais remercier tout d'abord, vous le voyez ici, tous les collègues de l'UMR 9612, que ce soit les thésards, les post-docs, les chercheurs statutaires, qui ont collaboré peu ou prou à l'un ou l'autre exemple que je vous ai montré aujourd'hui pour illustrer ce que peuvent être les nanomédicaments dans l'arsenal thérapeutique d'aujourd'hui. J'espère que je n'ai oublié personne. Je voudrais également remercier les collègues d'autres laboratoires avec lesquels nous avons des collaborations extrêmement fructueuses. Une mention particulière pour le groupe de Didier Desmaël et pour les polymères de Jean D'Angelo, parce qu'effectivement, sans chimie, vous l'avez compris, il n'y a pas de nanotechnologie. Des collègues étrangers comme l'équipe de Luigi Cattel à Turin pour l'affaire du squalène. Également le groupe de Turkay Dalkara Ilmaz Çapan en Turquie. Un grand merci aussi à l'équipe de Gérard Ferret dont j'ai mentionné notre récente collaboration, Gilles Vassal et Christian Trépeau pour certains modèles de tumeurs expérimentales et Brigitte Gillet de Paris Sud maintenant pour les aspects d'imagerie. Je ne voudrais pas oublier également ceux qui dans ma carrière m'ont appris un certain nombre de choses. Je n'oublie pas mon patron de thèse Michel Roland qui m'a donné le goût de la recherche. Je n'oublie pas Peter Speiser, qui pour des raisons de santé n'a pas pu venir aujourd'hui, de l'École polytechnique de Zurich, qui m'a sensibilisé à tous les aspects, je dirais, de valorisation de la recherche en prenant des brevets. Je n'oublie pas non plus Francis Puisieux, qui est ici présent, je le sais, et qui m'a appris finalement comment manager une équipe et comment faire, je dirais, de la stratégie scientifique. Ce n'est peut-être pas l'habitude, mais je voudrais terminer en remerciant mon épouse, parce que je pense que sans elle, eh bien, ma contribution nanomédicaments n'aurait probablement pas existé. Merci Cécile. Et je vous remercie de votre attention.
C'était la leçon inaugurale de Patrick Couvreur. Les nanotechnologies peuvent-elles contribuer à traiter des maladies sévères, le 21 janvier 2010 au Collège de France? Le texte de cette leçon est publié chez Fayard en 2010. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations liées à cette diffusion. Un grand merci à notre équipe de réalisation, Olivier Guérin et Nicolas Delmas, et un grand merci à la documentation d'actualité de Radio France. Cette émission sera rediffusée dans le cadre des Nuits de France Culture. Demain, Antoine Compagnon, la littérature, pourquoi faire ? Belle fin de journée à l'écoute de France Culture !